France Culture. Elle avait été rejetée le 25 octobre 2024 à l'Assemblée nationale, puis adoptée le 29 novembre par le Sénat, avant bien sûr que tout ne soit suspendu par le vote de la motion de censure du gouvernement. Et voilà donc qu'elle revient, cette fameuse idée de surtaxe des grandes entreprises. Le concept est relativement simple, les temps sont durs, il faut réduire le déficit et donc augmenter les recettes. Or, cette surtaxe permettrait, selon les calculs de Bercy, d'engranger près de 8 milliards d'euros. Voilà qui n'est pas négligeable vu les circonstances. Alors François Bayrou ne l'a pas explicitement évoqué hier dans son discours de politique générale tenu devant l'Assemblée nationale, mais la mesure est toujours d'actualité, notamment parce qu'elle incarne une sorte de compromis, pas d'inquiétude, il s'agit là d'une modification temporaire exceptionnelle. En quelque sorte, on applique la recette des grands mots, les grands moyens. Alors au nom de quoi taxer davantage les multinationales et les grandes entreprises, et pourquoi est-il si important d'afficher le caractère extraordinaire d'une telle mesure? Quel risque de voir cette fiscalité entraîner un ensemble de façons de la contourner et donc d'être condamnée à une forme d'inefficacité? Retour jusqu'à 15h sur ce vaste débat dans cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Élise Le. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui pour revenir aux racines aussi de ce débat qui est à la fois théorique et très pratique puisqu'il s'ancre dans l'actualité du moment. Pascal Saint-Amance et Jean-Philippe Robé, bonjour.
Bonjour.
Pascal Saint-Amance, vous êtes professeur à HEC et ancien directeur de la fiscalité à l'OCDE. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Paradis fiscaux, deux points, comment on a changé le cours de l'histoire, paru au Seuil en 2023. Jean-Philippe Robé, quant à vous, vous êtes avocat au barreau de Paris et de New York. Vous avez fait paraître il y a quelques années déjà chez Dalloz, Le temps du monde de l'entreprise, globalisation et mutation du système juridique. Et tout de suite, on écoute où on en est aujourd'hui.
Nous n'augmentons pas les impôts sur les entreprises, fût-ce temporairement, par conviction politique. Nous le faisons par nécessité du moment.
Laurent Saint-Martin, ancien ministre du Budget.
Et nous considérons qu'après des années où nous avons su protéger notre tissu économique, industriel, peut-être plus qu'aucun autre pays, et au prix et au coût de finances publiques évidemment croissantes ces dernières années, ça n'a échappé à personne. Il faut que l'ensemble des parties prenantes participent à ce redressement des comptes publics. Et donc nous estimons comme étant justifiée la participation exceptionnelle et ciblée des grandes entreprises profitables. C'est une surtaxe à l'IS, c'est pas l'augmentation du taux d'IS. La différence est très importante. On n'envoie pas du tout le même message à la fois aux entreprises françaises mais aussi pour l'attractivité de notre pays, quand on modifie structurellement et en dur le taux d'impôt sur les sociétés qui est passé de 33% à 25% en 7 ans, que quand on demande un prélèvement exceptionnel à l'intérieur du montant d'impôt sur les sociétés.
Ce mécanisme de surtaxe pour les grandes entreprises a été discuté avec les entreprises, avec notamment le MEDEF. Il a été accepté comme un geste de solidarité.
Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances.
Cet accord, il reste, il demeure. Donc, nous allons travailler sur un mécanisme qui s'appliquerait et qui permettrait d'avoir les revenus de l'ordre de 8 milliards d'euros en 2025.
Quand vous surtaxez une entreprise, elle répercute toujours ses coûts.
Philippe Juvin, député Les Républicains.
Soit sur le consommateur en augmentant les prix, soit sur ses salariés en licenciant ou en partant, taxez moins Sanofi et vous verrez, par miracle, leur usine de Doliprane restera en France.
Jean-Philippe Robé, commençons par le commencement, si vous le voulez bien. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de surtaxe? On entendait Laurent Saint-Martin faire une nette distinction entre cette surtaxe et une augmentation de l'impôt sur les sociétés qui est déjà en place. Alors, que faut-il comprendre par ce vocabulaire de surtaxe qui est mobilisé là?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un impôt, c'est toujours la multiplication d'une base à laquelle va s'appliquer un taux. Et ici, on a un effet de cosmétique, en vertu duquel le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés nominativement ne bouge pas. On va juste augmenter le montant d'impôt payé par les sociétés en appliquant un taux supplémentaire au taux d'impôt qui aurait été payé sans cette surtaxe. C'est en cela qu'on peut parler d'une surtaxe. On augmente la taxe qui aurait été payée.
mais pas de façon nécessairement durable. En tout cas, Laurent Saint-Martin insiste dessus. L'idée, c'est de greffer, on va dire, un pourcentage supplémentaire.
Avec cette réserve malgré tout que l'État, depuis toujours, est à la recherche de ressources supplémentaires. Et que, depuis toujours, on présente des impôts nouveaux comme des impôts temporaires. Donc on verra. Pour l'instant, on nous présente ça comme une solution temporaire. Est-ce la réalité aujourd'hui? On ne peut pas faire de procès d'intention. Par contre, le problème structurel que nous avons, c'est-à-dire un déficit, un endettement, ne va pas disparaître dans 2 ans. Donc la nécessité d'avoir des ressources fiscales supplémentaires va perdurer. Pourquoi ferait-on disparaître dans 2 ans un impôt si on peut démontrer qu'il a amélioré les finances publiques? J'attends de voir.
Et c'est d'ailleurs une question que je vais vous poser, Pascal Saint-Amans, vis-à-vis de ce risque potentiel. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais ce risque potentiel de voir une telle mesure présentée comme exceptionnelle se pérenniser. Et pour rappel, le taux normal, habituel, on va dire, de l'impôt sur les sociétés est de 25% en France. La surtaxe qui est prévue est de 20,6% pour les entreprises qui génèrent entre 1 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cela revient à un taux d'imposition des bénéfices de 30,15%. Et pour les entreprises encore mieux assise, on va dire, financièrement, celle qui réalise plus de 3 millions de chiffres d'affaires, la surtaxe, elle, va être de 41,2%, ce qui amènerait ce taux d'imposition effectif à 35,3%. Pascal Saint-Amans, pourquoi est-il si important, selon vous, d'insister sur la dimension temporaire d'un tel dispositif?
Alors, tout ça, c'est très compliqué. On va essayer de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Vous avez des acteurs économiques qui sont des sociétés, des entreprises. Et ces entreprises, elles font des activités qui peuvent ou pas générer des profits. Donc vous vendez vos biens, vous avez des charges, et la différence entre les deux, c'est votre profit. Et l'État prend, dans tous les pays du monde, sauf quelques rares exceptions, prend un impôt sur ses profits, ça s'appelle l'impôt sur les sociétés. Mais comme vous l'avez très justement dit, l'impôt, c'est le produit d'un taux et d'une base. Donc on prend X% sur une base qui est le profit calculé comme mes recettes moins mes dépenses. D'accord? Donc ça, c'est la base. Ce que l'on voit, c'est que, comme on est dans un monde ouvert, une économie globalisée, les pays, au cours des 30 dernières années, se sont fait concurrence.
Une sorte de course à
l'échelle. Donc, vous avez plutôt intérêt, si vous êtes une multinationale, on parle des très grandes entreprises, là, qui sont pas limitées à un seul pays. Mais si vous êtes une multinationale, vous avez plutôt intérêt à faire votre benchmark, vos comparaisons. En Irlande, c'est 12,5% de taux. La base, d'ailleurs, est faible parce que je peux déduire beaucoup plus de charges que je ne pourrais en France. Mon taux effectif, c'est-à-dire ce que je vais vraiment payer par rapport à mon profit réel, c'est 5-6%. Ben, devinez quoi, je vais en Irlande. Et donc, les Français et les autres, ils sont contraints de réduire l'impôt sur les sociétés. Vous avez dit qu'il était à 25% aujourd'hui. Il était à 50% au début des années 80. Il était à 33% il y a 7 ans. Et on voit qu'au niveau mondial, vous avez une tendance à la baisse. Pour les petites économies, on est entre 10 et 20%. Pour les grandes économie entre 20 et 30%, et pour les pays en voie de développement, au-dessus de 30%. La France n'est pas encore ou plus un pays en voie de développement, donc on est à 25%. Ça, c'est le premier élément de l'équation. 25%, ça se compare plutôt pas mal, et on a une base qui est plutôt large. On a mis fin à pas mal de niches fiscales, il en reste une. Le Monde a fait un article il n'y a pas très longtemps là-dessus sur le crédit d'impôt recherche qui vide un peu
de
son contenu. On parlait de Sanofi qui est une entreprise qui bénéficie beaucoup du crédit d'impôt recherche. Donc le taux effectif est plus bas, mais voilà le paysage. Alors dans ce paysage-là, il y a une difficulté, c'est que cette politique de l'offre qui a consisté à réduire la taxation du capital. Taxation du capital, c'est l'impôt sur les sociétés, mais c'est aussi la taxation des dividendes. Hein. Ces profits, une fois taxés, on les distribue aux actionnaires. Et là, il y a une taxation. Mais cette taxation, elle est inférieure à ce que devrait payer un travailleur. La taxation du capital, elle est inférieure à la taxation du travail. Et tout ça, c'est pour que la France soit plus attractive et qu'on investisse davantage. La difficulté, c'est que on a en même temps, comme dirait l'autre, des déficits qui sont très élevé. Et donc là, le gouvernement doit faire face à une situation où, sans action, on a un déficit qui sera à plus de 6% du produit intérieur brut. Donc il faut le réduire et il faut trouver des recettes d'urgence. Vous l'avez dit, les recettes d'urgence, c'est quoi? Ben, on regarde les chiffres, on discute avec le MEDEF et on dit on va faire une contribution qui n'est pas volontaire, elle est obligatoire, supplémentaire, limitée dans le temps. Et comme l'a dit le ministre, alors je ne sais plus de quoi il est ministre aujourd'hui, je crois du commerce extérieur, M. Saint-Martin, on ne veut pas afficher que le taux d'impôt sur les sociétés est augmenté, parce que là, ça pourrait faire peur aux investisseurs étrangers. On le maintient et on dit, vous allez payer X% de plus cette année, peut-être pendant 2 ans, peut-être pendant 3 ans. Si c'est durable, c'est quand même pas très bon en termes d'attractivité et d'affichage. Donc il y a eu un effort pour ne pas le rendre permanent. Mais malgré cet effort, c'est vrai que ça n'envoie pas un signal extraordinaire aux investisseurs étrangers. En même temps, il y a besoin d'argent, il y a 8 milliards en jeu. Et donc c'est ça qui est en jeu, c'est comment je fais participer les plus gros. Et donc on prend des seuils. Bon, 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. 3 milliards, je ne sais plus le nombre d'entreprises. Au niveau mondial, vous avez à peu près 10 000 entreprises, niveau mondial, qui sont à plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en France, combien d'entreprises sont à 1 milliard ou 3 milliards? J'aurais dû mieux travailler avant l'émission pour vous donner le chiffre.
Je crois que ça représente 440 groupes.
Voilà, on parle de quelques dizaines, quelques centaines de groupes, c'est pas beaucoup.
Alors, pour rentrer peut-être encore dans un niveau de complexité un peu supérieur, même si le sujet l'est déjà pas mal, mais qui permet de comprendre notamment cette fameuse assiette, finalement la base sur laquelle on calcule ce fameux impôt. Jean-Luc Petit-Huguenin, qui est le fondateur et spécialiste du recyclage PAPREC, s'exprimait dans Les Échos. Il est aussi membre de l'Institut de l'entreprise. Selon lui, ce sont les modalités de calcul qui ne passent pas vis-à-vis de cette surtaxe. Bercy considère que mon groupe dépasse la barre de 3 milliards d'euros de revenus parce qu'il regarde le chiffre d'affaires additionné de nos activités et non le chiffre d'affaires consolidé, mais il y a beaucoup de facturation interne. C'est complètement illogique. Là, Jean-Philippe Roubet, on va avoir besoin d'une traduction. Comment est véritablement calculé ce fameux IS, ce fameux impôt sur les sociétés, et comment on peut arriver à des situations qui ne correspondent pas forcément à la réalité de la santé économique de certaines entreprises, comme le disait Jean-Luc Petit-Huguenin?
Alors oui, on arrive à un autre niveau de complexité qui est celui de la structure juridique interne des très grandes entreprises. Parce que on part d'une entreprise comme si c'était une unité, comme si elle avait une existence juridique, comme si c'était une personne. En réalité, ce n'est pas le cas juridiquement. Les entreprises, les très grandes entreprises, sont structurées essentiellement via des sociétés par action, des sociétés de capitaux, qui servent de colonne vertébrale à la structuration juridique de l'entreprise. Et donc, l'entreprise a une unité organisationnelle, et pour les entreprises multinationales, ce sont des organisations mondiales, qui existent bien et bien en tant qu'organisation à l'échelle mondiale, mais juridiquement, elles sont éclatées en une multitude de personnes morales. Il y a une ou plusieurs filiales par pays, et ces filiales sont reliées entre elles par des relations capitalistiques. Les sociétés du haut de la hiérarchie détiennent les actions émises par des sociétés en dessous dans la hiérarchie de l'organisation, et ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs degrés, quelquefois plus d'une dizaine, une quinzaine de degrés, et aussi des participations croisées entre les diverses sociétés. Donc ça donne un niveau de complexité assez important. Et là, il ne s'agit encore que de la structure sociétaire, les sociétés qui servent de support juridique à l'activité. Mais au-delà de cela, l'activité interne à l'entreprise, c'est une activité de production, c'est une activité de distribution, il faut des salariés. Les salariés dans les différents pays sont salariés des différentes personnes morales, et les personnes morales dans les différents pays vendent à une autre filiale, achètent auprès d'une autre filiale, empruntent auprès encore d'une autre filiale, ont des licences de marque, des licences de brevets, etc. Et tout ça génère des flux internes au sein de l'entreprise qui font qu'on peut, en fonction des méthodologies utilisées pour déterminer quelle activité se situe au sein de l'entreprise ou non, en fonction des méthodologies utilisées, on peut arriver à des doubles comptages. Et donc faire que pour une seule et même organisation, on peut mesurer un chiffre d'affaires très important si on n'annule pas l'effet des opérations internes. Et pour avoir une vision économiquement correcte de l'activité d'une entreprise, il faut faire comme si elle existait en tant qu'unité juridique. C'est une unité comptable, ce qu'on appelle une entité comptable. C'est pas une entité juridique pour autant. On fait comme si...
C'est une sorte de fiction. Ouais.
Voilà, c'est une fiction dans la fiction. C'est-à-dire que les personnes morales du droit qui servent de support juridique aux entreprises sont elles-mêmes des fictions juridiques. mais elles existent réellement dans le système juridique, elles fonctionnent, elles ont réellement une personnalité morale, elles sont parties à des contrats, elles sont parties à des ventes, elles sont parties à des prêts. L'entreprise en tant que telle n'est partie à rien du tout. Ce n'est pas une personne morale, elle n'a pas d'existence juridique. Ce qui est extraordinairement important à comprendre, si on veut comprendre la structure de l'économie mondiale, où on a effectivement des organisations, entre guillemets, privées à l'échelle planétaire, mais qui n'ont pas d'existence en tant que telle juridiquement.
Pascal Saint-Amans, voilà qui complique sérieusement notre histoire et voilà aussi qui permet quelque part de douter aussi de la forme de contrôle qu'on peut exercer, notamment via l'imposition de cette surtaxe. Je crois que ça fait partie aussi des récriminations d'ailleurs des chefs de ces 440 entreprises dont on parlait et qui justement pointaient du doigt le fait que c'était bien facile peut-être d'imposer cela à des entreprises clairement identifiées en France, mais pour d'autres qui multipliaient justement toutes ces couches dont on vient de parler, c'était quand même beaucoup plus compliqué et donc autant de façons de sortir du système quelque part.
Alors effectivement, c'est très compliqué. On va essayer de perdre personne et de faire en sorte que on puisse comprendre ce qui est en jeu. Donc on l'a dit, le gouvernement a besoin d'argent, on identifie les sociétés comme devant contribuer. On dit, bon, on va prendre les plus grandes. Pourquoi les plus grandes? Parce qu'il y a des raisons électorales, on ne veut pas taper les petits. Et puis les plus grandes sont censées, et je pense que c'est exact économiquement, être plus profitables, être plus rentables, et donc avoir une capacité plus grande.
Sachant, parce qu'à certains moments, je me permets une toute petite astérix dans cette conversation, sachant qu'on parle quand même, en termes de grandes entreprises, de quelque chose de très disparate. Sur les 440 groupes qu'on évoquait, 157 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards d'euros devraient apporter à elles seules 7 milliards d'euros sur les 8 espérés. Donc il y a quand même une nette distinction entre les très très grandes et les plus petites avec plein de guillemets, puisqu'on parle quand même de celles qui font plus d'un milliard.
Vous avez tout à fait raison, ça illustre bien le fait que plus vous êtes gros, plus vous êtes profitable. La règle n'est pas tout à fait exacte, vous pouvez avoir de très grandes entreprises qui vont en réalité faire des pertes. Alors si vous faites des pertes, vous payez pas d'impôts sur les sociétés, vous n'avez pas la surtaxe. Mais si vous faites des profits et que vous êtes très grand, à ce moment-là, vous avez des chances d'être très profitable. Néanmoins, on a là une question qui est une question débattue par les économistes depuis longtemps sur les surtaxes. En période de guerre, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, les industries d'armement font des profits gigantesques et le gouvernement dit, ben, en fait, ils ont des surprofits. On va prendre une surtaxe sur le surprofit.
Déjà à l'époque.
C'est pas normal, c'est pas un retour normal, c'est une rente. On va pouvoir dire ce que disent les économistes. Et donc, sur cette rente, on peut prendre l'impôt qu'on veut. Là, c'est pas la logique qui a retenu le gouvernement. La logique qui a retenu le gouvernement, elle est un peu aveugle. C'est dire, vous faites plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je vous prends 35% d'impôt sur les sociétés. C'est à ça que ça revient. Je reprends une surtaxe qui fera que votre contribution sera un peu plus d'un tiers de votre profit. Et ça, c'est un peu aveugle, parce que ça peut taxer une entreprise qui va être extrêmement rentable. Par exemple, une entreprise américaine de la tech qui va avoir un retour de 40% sur son investissement. Et ça peut aussi taper une entreprise française ou européenne qui vend des biens qui sont pas vraiment différenciés avec des taux de profitabilité de 3-4%. Et donc, voyez, là, vous avez une petite injustice qui est faite. Ça a le mérite d'être clair, d'être objectif. Ça a l'inconvénient peut-être d'être un peu injuste. Pour revenir sur les fictions dont on parlait. J'aurais presque envie de renverser la logique. Vous avez très justement décrit la façon dont les multinationales ou les grandes entreprises purement françaises sont organisées. Vous avez plein d'entités juridiques. Donc vous avez une société holding, vous allez avoir plein de sociétés dessous et encore plus de sociétés encore dessous. Et ça, c'est une organisation juridique. Et j'aurais tendance à dire que la fiction, elle est au niveau juridique. La réalité économique, c'est que, en fait, vous avez une entreprise. Vous avez une entité économique. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va retrouver à la bourse. À la bourse, vous achetez des actions de LVMH. Vous achetez pas des actions de telle société,
branche, oui,
du groupe.
Mmh.
Vous achetez le groupe, et d'ailleurs, vous allez recevoir un dividende du groupe. Et donc, ce que décrivait la personne se plaignant de la base taxable, en disant « oui, mais les transactions internes entre toutes ces entités sont pas prises », je sais pas ce qui sera retenu in fine, mais c'est vrai qu'il serait logique de prendre l'entité économique, et c'est ce qu'on appelle les comptes consolidés. Dernier point, c'est un peu international, on y reviendra, je pense, plus tard au cours de ce débat, mais c'est que lorsque vous avez une multinationale qui est présente dans plein de pays, les transactions internes, c'est-à-dire je vais prêter de l'argent à moi-même. Ma filiale italienne va prêter de l'argent à sa mère française. Ça, c'est une transaction interne. Je passe pas par une banque extérieure. Quel est le prix de cette transaction et quels sont les risques liés au fait de déplacer du profit en Italie ou en France, ou devinez quoi, plutôt au Luxembourg ou au Caïman?
Oui, on s'en doute. Une forme de rationalité propre peut-être aussi à ce monde-là et à ces règles. Jean-Philippe Robet, elle est intéressante cette question d'un potentiel aveuglement ou en tout cas de cette idée d'apposer des taux un peu peu importe la réelle santé financière des entreprises, parce qu'en fait on pourrait se dire que c'est une réflexion à mener aussi sur ce taux de 25% de l'impôt des sociétés qui est une espèce de bloc, bon, avant qu'on lui rajoute ces fameuses surtaxes en fonction des circonstances, mais pourquoi avoir décidé de ce taux de 25% et pourquoi il n'y a pas de modulation un peu plus importante en fonction justement de la santé des entreprises? Que dit la loi à ce niveau-là?
Bon, ce qui est important par rapport à cet impôt sur les sociétés, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est dans un système mondial de concurrence entre États, et c'est la concurrence entre États qui fixe le taux. C'est fondamentalement rien d'autre. Et structurellement, les taux diminuent. Le taux d'imposition sur les sociétés, depuis des décennies, est à la baisse. Globalement.
Ce taux est à la baisse et de fait il était par comparaison beaucoup plus élevé au moment de sa création en 1948. Alors pour bien comprendre quelle est finalement la justification presque philosophique aussi de l'idée d'apposer une taxe, un impôt à une entreprise, au nom de quoi on doit faire payer les entreprises, je vous propose d'écouter la façon dont Antoine Pinet se saisissait du problème. Il était alors le ministre des Affaires économiques du gouvernement Charles de Gaulle, c'était en 1958.
Alors, en ce qui concerne les impôts, il y a très peu de choses. D'abord, il n'y a pas d'impôt nouveau. Nous avons décidé de porter l'impôt sur les sociétés de 47,60% à 50%.
Et la taxe proportionnelle est augmentée de combien?
Alors, la taxe proportionnelle est augmentée de 10%. Elle est portée à 22% au lieu de 20%.
Est-ce que vous pensez que l'effort fiscal que vous demandez cette année sera reporté également l'année prochaine?
Alors, j'ai une telle conviction sur l'efficacité des mesures que nous prenons que je suis convaincu que l'amélioration qui peut en résulter se traduira l'année prochaine par une situation très améliorée et qu'il sera possible pour l'État d'apporter une atténuation aux mesures qui sont demandées aujourd'hui. Il ne faut pas que le pays se dissimule l'ampleur de la réforme que nous avons décidée. C'est une très très grosse chose qui est de nature à faire disparaître les inconvénients de toutes les erreurs passées et promouvoir une sorte de prospérité et d'amélioration très grande. Si je pouvais traduire cela par des chiffres, je dirais que nous demandons aux Français une année très dure pour leur assurer 10 années de prospérité.
Voilà, une archive de 1958, à une époque où ce fameux taux d'imposition des sociétés est de 50%, soit le double de ce qu'il est actuellement. Il est resté à 50% jusqu'en 1985. Jean-Philippe Robet, une question simple mais extrêmement vaste. Qu'est-ce qui justifie, au nom de quoi, taxe-t-on les entreprises en France?
Qu'est-ce qui justifie, c'est encore une fois les besoins de l'État. L'État a un budget, il faut le financer, il faut trouver des ressources. Les personnes physiques, salariées ou non, ont des revenus, on taxe ces revenus. Les entreprises, via les sociétés, réalisent des profits, on taxe ces profits. À partir du moment où on a une opportunité fiscale, l'État est toujours là. Vous vendez votre maison, il y aura une plus-value, il y aura des droits d'enregistrement, etc. C'est nécessité qui fait loi en la matière. Et d'ailleurs, on aurait du mal à imaginer aujourd'hui une disparition de l'impôt sur les sociétés.
Pascal Saint-Amance, on pourrait se dire aussi que c'est une façon pour l'État d'avoir une forme de retour sur investissement, dans le sens où c'est l'État aussi qui fournit les infrastructures et tout le cadre, on va dire, aussi qui permet à ces sociétés-là d'être plus compétitives. On le disait, il ne faut pas oublier le contexte international qui est notamment le nôtre actuellement. Cet impôt sur les sociétés, c'est aussi une façon d'avoir ce retour-là. 25%, on pourrait se dire que ce n'est pas négligeable, c'est quand même beaucoup moins que 50%. Comment on justifie non seulement cet impôt, mais aussi cette très large baisse au-delà de cette question de la concurrence internationale?
Alors là aussi, les fondamentaux, l'État a besoin de se financer, il a besoin d'impôts. Qu'est-ce qu'on peut taxer? On peut taxer la consommation, alors la taxe. Hein. La TVA, c'est une taxe sur la consommation. Les droits d'accise sur le tabac, sur l'alcool, c'est de la taxe sur la consommation. Les accises sur l'essence que l'on met dans sa voiture, c'est une taxe sur la consommation. Donc les taxes sur la consommation. D'ailleurs, historiquement, c'était les premières taxes. La gabelle, hein, la taxe sur le sel, parce que tout le monde avait besoin de sel, parce qu'on n'avait pas de frigidaire. Et ce type d'approche. Au cours du développement des États, et il y a des courbes assez intéressantes qui montrent ça, les États se développent en termes de poids financier avec les guerres. La Première Guerre mondiale est un moment où vous avez une explosion des dépenses publiques. Et il faut les financer. Et en 1917, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, on met en place ce qu'on appelle la fiscalité directe. C'est là que je viens à l'impôt sur les sociétés. La fiscalité directe, c'est dire, vous avez des agents qui, dans votre pays, qui ont des revenus. Eh bien, on va taxer ces revenus. Donc, les personnes physiques, ben, vous allez taxer les salaires, vous allez taxer les autres revenus, les dividendes, les revenus de capitaux et autres. Et les entreprises, donc, qui sont ces entités juridiques multiples, un peu fictionnelles, mais ces entités économiques réelles, eh bien, on va taxer leurs revenus. Et le revenu, c'est le profit qui est calculé par la différence entre ce que je vends et les coûts qui sont engendrés. Et à partir de là, vous devez déterminer une base et un taux. Et c'est vrai que ce taux, il a été historiquement très élevé, comme pour les personnes physiques. Vous vous souviendrez, Seconde Guerre mondiale, autre moment d'explosion des dépenses publiques, les États-Unis taxent les personnes physiques à 90%. Donc on est sur une autre époque. Depuis, vous avez eu les années 80, vous avez eu le libéralisme qui s'est un peu imposé, avec la chute de l'Union soviétique aussi. Vous avez une victoire idéologique du libéralisme qui dit les agents doivent créer de la richesse. Si vous taxez en fiscalité directe, c'est-à-dire si vous taxez les sociétés, si vous taxez les individus, ils travailleront moins. Vous avez tous entendu parler de la courbe de l'affaire, ou peut-être la courbe de l'affaire. L'affaire, c'est un économiste qui dit à Ronald Reagan quand il est élu, ben, plus ton taux est élevé, plus les gens en fait ont une désincitation à travailler, et donc plus tes recettes fiscales vont baisser. Donc il y a un certain moment où il fait ça en fait sur une enveloppe dans un restaurant. Hein. C'est pas une courbe économique très sophistiquée, mais il explique que si tu prends 90%, en fait, tu vas prendre beaucoup moins que si tu prends 40%. Et donc, on a cette idéologie libérale qui s'est un peu imposée, à juste titre, hein, sans doute, et d'autre part, une concurrence fiscale entre pays, puisque l'économie s'est globalisée, les entreprises sont multinationales, vous n'avez plus de frontières, donc c'est facile de localiser votre profit un peu où vous voulez, du fait de ces questions de facturation interne ou autre, donc c'est assez facile de faire basculer le profit dans les pays qui taxent peu. Donc les pays ont eu cette pression pour baisser les taux d'impôt sur les sociétés. Et donc aujourd'hui, il y a eu, on va en parler, un mouvement de réaction contre ce phénomène-là, contre l'évasion fiscale des multinationales, contre la concurrence fiscale, pour dire il faut arrêter, parce que si on n'arrête pas, on n'a plus d'impôt sur les sociétés. Et si on n'a plus d'impôt sur les sociétés, on ne pourra pas non plus taxer les personnes physiques. Parce que si je suis une personne physique et que je suis taxé à l'impôt sur le revenu, mais que les sociétés ne le sont pas, ben je vais m'incorporer. Je vais devenir moi-même holding, présentateur à France Culture. Ben en fait, ça sera ma société qui sera embauchée par France Culture pour faire ça, parce que si c'est une société, il n'y a pas d'imposition, alors que si c'est un salaire, il y a une imposition.
Mais c'est intéressant ce que vous dites là, Pascal Saint-Amans, parce que vous avez dit tous les deux avec Jean-Philippe Robet qu'on le comprend très clairement, c'est assez simple, que cet impôt sur les sociétés est une façon de financer les dépenses de l'État, on le comprend, voilà. Mais à force, et notamment du fait de cette concurrence internationale fiscale, à force de baisser cet impôt sur les sociétés, on a presque l'impression que bon an, mal an, s'est mis en place un système qui pourrait fonctionner. Un taux normal, entre guillemets, de 25%, voilà, en temps où tout se passe à peu près bien, qu'on ajuste en fonction des besoins avec ces surtaxes. Ça, Pascal Saint-Amans, c'est un système qui pourrait fonctionner, on en ajuste en fonction des besoins.
Alors, la réponse est non en termes de bonne politique. Parce que il faut se mettre une seconde dans la place des investisseurs. Vous voulez développer une activité, vous voulez faire des serveurs en France pour développer l'intelligence artificielle si vous êtes une entreprise de la tech. Vous faites vos calculs. Combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter. Mais si vous savez pas quel va être le montant de votre impôt, ou si vous n'avez pas une certaine prévisibilité du montant de l'impôt, eh bien vous avez une difficulté. Et donc, faire bouger le taux, c'est la démocratie, c'est le principe de consentement à l'impôt, le Parlement peut changer le taux tous les ans. En termes de bonne politique fiscale, il est mieux d'envoyer un signal en disant vous investissez en France, vous avez un quart du profit qui sera prélevé comme impôt et qu'on ne se retrouve pas le lendemain à 50% ou de façon aléatoire. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement insiste sur le fait que cette surtaxe, elle est temporaire. Le train, d'une fois de plus, a été passé, l'impôt sur les sociétés, je parle de l'ensemble des pays, de l'ordre de 50% à l'ordre de 25%, la France est dans la moyenne cette fois-ci. Ça, c'est un train depuis les 40 dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, on est stabilisé à ce niveau. Il remontera peut-être un petit peu en raison de toutes les actions qui ont été menées pour lutter contre la concurrence fiscale entre les pays et contre l'évasion fiscale des multinationales. Donc le mouvement de la France, là, il n'est pas en écart avec ce qui se fait dans le reste du monde.
On a parlé de consentement à l'impôt. Cette idée de surtaxe, elle n'est pas 100% neuve, on va dire. Elle n'a pas émergé à la fin de l'année 2024. Déjà en novembre 2017, le Conseil constitutionnel avait validé la surtaxe exceptionnelle sur les grandes sociétés mise en place pour compenser le manque à gagner de 10 milliards d'euros dû à l'annulation de la taxe sur les dividendes. Difficile de ne pas venir à cette conclusion de fait que ces 25% ne sont pas forcément extrêmement adaptés. Mais Jean-Philippe Robet, ce qui était intéressant dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est que deux critères avaient été mis en avant par les juges, celui du principe d'égalité devant l'impôt et le fait que cette surtaxe de 2017 ne représentait pas une charge excessive au regard des résultats des entreprises concernées. Je trouve que ce principe d'égalité devant l'impôt, il compte aussi. Il y a aussi cette idée de dire, à partir du moment où le contribuable, on va dire l'individu contribue et est imposé, les grandes entreprises doivent le faire aussi. Ça participe à un système global du consentement à l'impôt.
Du consentement et de l'égalité devant l'impôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où certains ont des revenus confortables, en tout cas perçus comme tels, on perçoit comme légitime et comme faisant partie du pacte social, si vous voulez, que chacun contribue, chacun bénéficie des services de l'État, les entreprises comme les autres acteurs économiques ou comme les autres individus, leurs camions sont sur les routes, leurs salariés ont été formés par des écoles gratuites, etc. Il est donc bien légitime qu'elles contribuent au financement des services publics dont elles bénéficient. Maintenant, il y a quand même un chiffre dont on n'a pas parlé et qu'il est important d'évoquer dans notre contexte, qui est que sur l'année 2024, les entreprises du CAC 40, entre les distributions de dividendes et les rachats d'actions, ont versé 100 milliards d'euros à leurs actionnaires. Donc, si vous voulez, il y a une partie des parties prenantes aux entreprises, les actionnaires, en admettant d'ailleurs que ce soit des parties prenantes des entreprises, qui ont une part assez extraordinaire du gâteau qui est fabriqué, cuisiné par les salariés et par les autres parties prenantes internes à l'entreprise.
Alors on l'a compris, Jean-Philippe Robet, vous l'avez dit, c'est une question de légitimité. Vous parlez aussi de ce fameux gâteau et de fait ce gâteau ne cesse de grossir. Et c'est une autre façon aussi de justifier ces surtaxes. On va dire, c'est sur ces taxes-là, elles sont mises en place en fonction des besoins de l'État, de cette tension vis-à-vis du consentement, et puis parfois en fonction de la nature même des profits des entreprises. S'il y a un premier élan vers cette idée de surtaxe en 2017, c'est surtout parce qu'à cette époque-là, il y avait une surenchère de qui s'est mise en place. La surtaxe se justifiait par les super-profits réalisés, notamment dans le contexte de la crise de l'énergie qui a découlé de la guerre en Ukraine. Total Energy avait alors, au premier semestre de 2022, enregistré un résultat net de 18,7 milliards de dollars, soit trois fois plus que l'année précédente. Bruno Le Maire, lors de l'université d'été du MEDEF en 2022, s'exprimait sur l'idée d'une taxation de ces fameux super-profits.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un super-profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais. Je sais que certaines entreprises ont pu faire des bénéfices très importants. Je leur ai demandé d'alléger la facture pour nos compatriotes. Et que je préfère que l'argent aille directement dans la poche de nos compatriotes plutôt que dans la poche du trésor public. Je sais que Total, CMA-CGM, les distributeurs, un certain nombre d'autres entreprises ont déjà fait des efforts pour redistribuer ce qu'elles avaient gagné directement dans la poche du consommateur et de nos compatriotes. Et j'appelle toutes les entreprises qui ont les marges de manœuvre nécessaires, comme l'a fait la Première ministre hier, à alléger la facture de l'inflation pour nos compatriotes. Mais je sais une dernière chose. Taxer plus en France, c'est produire moins en France.
Voilà, taxer plus, c'est produire moins. Pascal Saint-Amans, est-ce que vous savez, vous, ce qu'est un super profit, contrairement à Bruno Le Maire dans cet extrait? Alors, et on en vient peut-être à la question de la rente aussi qu'il faut aborder en détail.
Bruno Le Maire, qui nous manque presque, dit à juste titre qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un surprofit. C'est pas évident à dire ce qu'est un surprofit. Donc revenons aux fondamentaux. Un profit, c'est j'ai un produit qui marche, je le vends, j'ai des charges plus ou moins élevées, j'ai fait des investissements, je dois les recouvrer, je dois payer mon banquier qui m'a prêté de l'argent, j'ai un profit. Maintenant, vous avez une crise énergétique et une mauvaise régulation du marché de l'électricité, ce qui est le cas en ce moment. Et donc, EDF ou Total vont faire des profits phénoménaux parce que vous avez quelque chose qui marche pas dans la régulation. Et ben ça, c'est ce qu'on va appeler un surprofit. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû se passer normalement. C'est pas un retour normal. Ou alors, vous êtes en situation de monopole. Vous pouvez faire le prix que vous voulez, d'accord? Vous avez un produit que tout le monde veut. On en a parlé beaucoup pour les produits de la tech en ce moment. Tout le monde veut votre produit. Ben, en fait, vous faites le prix que vous voulez. Et là, vous avez un retour sur investissement qui ne correspond pas à quelque chose de normal. C'est ça un surprofit tel que défini par les économistes. Et la théorie économique dit, s'il y a un surprofit, s'il y a une rente, en fait, l'État, il peut prendre ce qu'il veut. Ça ne va pas changer la capacité de l'acteur à investir.
Puisque la situation restera la même.
Il lui faut un retour normal sur investissement, un peu plus, mais vous pouvez prendre la rente, c'est pas gênant. Par contre, c'est extrêmement difficile d'identifier ce qui est un surprofit, à partir de quoi, c'est quoi le benchmark, c'est quoi la bonne référence, et c'est pour ça que les politiques ont été un peu réticents, à juste titre je crois, à mettre en place des taxes sur les surprofits liées à cette définition-là du surprofit, d'où l'approche un peu aveugle qu'on a là, qui consiste à dire, on a juste besoin d'argent, c'est temporaire, au-dessus de X milliards, quelle que soit votre profitabilité, on prend un impôt supplémentaire.
D'autant que ça semblait compliqué pour beaucoup d'économistes et de commentateurs de surtaxer, on va dire, uniquement un seul secteur, en l'occurrence celui de l'énergie, cela risquait de créer de sérieux déséquilibres, on va y venir, mais voilà, des déséquilibres notamment liés à cette contribution sur les rentes, le mot est lâché, infra-marginal. Jean-Philippe Robet, ces super profits qui avaient eu lieu à cette époque-là, dans ce contexte très particulier, avaient donné lieu à une autre discussion, qui c'est une petite parenthèse par rapport à la surtaxe, mais qui était extrêmement importante, c'était aussi celle du partage de la valeur, et notamment au sein des entreprises. On s'était demandé finalement, ces profits qui ont été générés parce que les circonstances ont amené cette situation-là, qui se les partage réellement? Alors je vous pose la question, Jean-Philippe Robet, que sait-on finalement de ce partage du profit au sein même des entreprises, avant même que cette question de la taxation n'intervienne?
Bon, ce qu'on sait, c'est que structurellement, au cours des dernières années, la part des distributions de dividendes, des rachats d'actions, a considérablement augmenté. J'ai les chiffres qui sont tombés ce matin d'un ami de cette rédaction, je crois Christian Chavagneux, qui est publié sur LinkedIn. Je prends les dernières années, les distributions 2021, c'est 69,4 milliards d'euros. L'année suivante, c'est 80,2. 2023, c'est 97,2 et l'année passée, c'est 98,2. Donc, si vous voulez, on a des montants de distribution de dividendes assez extraordinaires. La prévision pour 2025, hors impact de la surtaxe, est une augmentation des distributions de 9,4%. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui aimeraient être augmentés de 9,4%. Donc, sur la création de richesses nouvelles, une part assez considérable va à la rémunération des actionnaires. Et je dis pas la rémunération du capital, parce que les actionnaires ne fournissent pas le capital des entreprises, contrairement à ce qu'on raconte régulièrement. Un actionnaire agit essentiellement sur le marché secondaire des actions. Il achète des actions à la bourse, et donc le prix qu'il paye va à un autre actionnaire. Et donc les entreprises ne touchent aucun copec quand un actionnaire agit sur le marché secondaire. Mais par contre, c'est un investissement qui, aujourd'hui, rapporte énormément d'argent. 100 milliards, encore une fois, sur l'année 2024. Donc, sur la création de la valeur, on a aujourd'hui un déséquilibre assez fort qui rejoint structurellement le problème dont on parle, c'est-à-dire les entreprises sont mobiles, les salariés ne sont nettement moins mobiles. Et Ulrich Beck, un grand sociologue allemand, disait Les États ont des racines, les entreprises ont des ailes. Donc les États, eux, sont scotchés avec un territoire et une population. Les entreprises, elles, peuvent choisir les territoires où elles vont investir et elles choisissent leur population interne. Elles choisissent qui elles recrutent. Elles prennent les bons, elles laissent tomber les mauvais, entre guillemets. Hein. Donc, si vous voulez, elles sont des organisations qui font face à des contraintes très différentes. Et dans ce jeu-là, les États sont dans une position nettement moins favorable que les entreprises. C'est assez fondamental sur... par son impact sur l'organisation de notre société et sur la justice au sein de notre société. Hier, pendant le discours de politique générale, on nous a dit très justement, avec les entreprises, attention, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Oui. Mais la question n'est pas de savoir si on tue ou pas la poule aux œufs d'or. Quand la poule aux œufs d'or, les poules aux œufs d'or distribuent 100 milliards de dollars sur une année, la question c'est qui ramasse les œufs. Vous voyez ? Et donc, on nous enfume un petit peu avec cette idée que venir en prendre un petit peu plus aux entreprises, ça serait les tuer. Non, c'est diminuer la rémunération que perçoivent les actionnaires.
Vous l'avez dit, les entreprises ont des ailes, les poules aussi. Bon, elles volent peut-être moins loin, on file la
mais
métaphore.
Mais elles ne volent pas, les poules.
Non, elles ont un peu de mal, effectivement. Et les entreprises ont beaucoup moins de mal. Et on va voir justement comment cette capacité à s'envoler peut représenter un risque, une menace pour les États qui, de fait, perdent en pouvoir face à ces multinationales. Nous venons de l'évoquer. Quelles sont donc les stratégies pour anticiper, voire prévenir ces potentiels contournements des formes de fiscalité que les États tente de mettre en place. On en parle juste après Don't Tax Me In de Jimmy Pritchard Ellis.
Time is coming, politicians are your friend. Oh, election time is coming, politicians are your friend. I got news for all you smoothies, please don't try to tax me. I'm having so much trouble myself up off the ground. Oh yeah. Oh, I'm having so much trouble trying to pick myself up off the ground. Don't need no extra weight to carry, but I'm already down. Yes, me out while in need of bread. Baby, can jive.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Tous les mercredis, nous ouvrons notre dictionnaire de l'écho. Et aujourd'hui, c'est à la notion de surtaxe que nous nous attaquons. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Philippe Robet, avocat au barreau de Paris et de New York. Et en compagnie également de Pascal Saint-Amans, professeur à HEC et ancien directeur de la fiscalité à l'OCDE. Alors, pour reprendre un peu le fil de notre discussion que nous avions laissée en cours de route, parmi les grandes entreprises qui sont concernées par ce fameux projet de surtaxe, soit, je le rappelle, un taux supplémentaire ajouté à l'impôt sur les sociétés qui existe déjà. Les Échos listent un certain nombre de grands noms du paysage économique français. On a LVMH qui aurait à s'acquitter d'une somme de 750 millions d'euros l'an prochain. Hermès, c'est 300 millions. Vinci, 400 millions. Safran, 330 millions. Pascal Saint-Amans, il y a un critère très important dès lors qu'on parle de fiscalité des entreprises, c'est celui de la territorialité. Tout simplement le fait d'être des entreprises françaises, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Or, on se rend compte que beaucoup de grands groupes ont des profils très internationaux. Ils réalisent peu de profits en France et sont plutôt préservés, puisque de son côté, Patrick Pouyanné, par exemple, a déclaré que, bon, pour lui, il n'y aurait pas forcément beaucoup d'impact vis-à-vis de cette surtaxe. Quel est le risque que ces entreprises, qui sont souvent de grandes multinationales, donc, parviennent à multiplier les stratégies d'évitement face à ces tentatives de surtaxe?
Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Il y en a au moins deux. Il y en a une qui est la territorialité. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a une autre qui est l'évasion fiscale, qui est un concept assez différent. La territorialité, c'est un principe qui date des mesures du train bleu, je crois, on est dans les années 60, qui, le train bleu, c'était une mesure, la réforme de l'impôt sur les sociétés par Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances. Et qui prévoit que un pays, la France, va taxer les entreprises à l'impôt sur les sociétés sur les profits faits en France. Si vous faites des profits à l'étranger, ben, ces profits, ils sont taxés à l'étranger, dans le pays où ils sont réalisés, mais ils sont pas taxables en France. Et la façon dont ça va se passer, c'est que la filiale italienne, pour prendre un exemple simple d'un groupe français qui fait des profits, va être taxé en Italie, il va y avoir un profit, une taxe, le profit après l'impôt, et tout ça va être distribué par un dividende à sa maison mère en France, et ce dividende, il est exonéré, on ne le taxe pas. Donc ça veut dire que les profits réalisés à l'étranger, on ne les taxe pas. Alors évidemment, les choses étant compliquées, on dit, ouais, attends, si on fait ça et que je mets tous mes profits aux Bermudes où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, il n'y a plus d'impôt sur les sociétés nulle part, c'est pour ça que j'ai des mesures anti-abus qui prévoient que si votre profit est dans un paradis fiscal, en fait, vous allez quand même le taxer en France. Donc ça, c'est une exception à la territorialité. Et ça veut dire aussi que si vous taxez vos entreprises françaises seulement sur les profits réalisés en France, vous allez taxer les entreprises étrangères sur les profits qu'elles réalisent en France. Et là, vous êtes censé avoir une bonne neutralité économique. Ça, c'est la territorialité. Ce qui me laisse à penser d'ailleurs que Louis Vuitton réalise beaucoup de profits en France, alors qu'ils sont aussi très internationaux. Donc, ils vont être taxés sur une petite partie de leur profit mondial, ce qui est normal et ce qui est en parfaite logique avec ce principe de territorialité, qui est une fois de plus assez attractif. Tous les pays du monde l'ont. Il y avait un pays qui l'avait pas jusqu'en 2017, c'était les États-Unis. Eux, ils taxaient sur un revenu mondial. Et devinez qui? Le président Trump, pour la première fois, a dit on va passer à un principe territorial. Ça, c'est le premier volet. Sur ce volet, je pense qu'il n'y a pas vraiment de commentaire à faire. C'est comme ça et c'est plutôt sain économiquement. Oui. Vous avez un second volet qui est, mais quelle est la part de votre profit que vous localisez en France? Et là, on retombe sur ce que Jean-Philippe a évoqué précédemment, les prix de transfert, comment vous faites vos transactions internes. Est-ce que vous n'allez pas avoir un petit schéma par lequel votre filiale au Luxembourg a tout l'argent du groupe et vous prête et vous devez rembourser avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, ce qui fait que votre profit est au Luxembourg avec peu de fiscalité. Et en fait, vous avez des charges en France qui réduisent votre profit, donc vous n'avez finalement plus beaucoup de profit en France. Vous voyez, c'est ce type de mécanisme. J'ai pris un exemple ultra simplifié, mais qui n'est pas totalement théorique plus, et qui fait que vous pouvez avoir de l'évasion fiscale. Et cette évasion fiscale, elle est absolument un risque majeur qui a été identifié notamment du fait de la globalisation et de la financiarisation et de la numérisation, pardon, ça fait beaucoup de assions, mais de l'économie. Vous avez un vrai changement de l'économie mondiale, c'est plus financiarisé, vous avez plus de flux financiers qui sont faciles à faire passer d'un endroit à l'autre, et c'est numérisé. Donc, vous n'avez plus forcément besoin de présence physique. Et puis, dans cette globalisation, la valeur, elle va s'attacher à la marque, elle va s'attacher au savoir-faire, elle va s'attacher à ce qu'on appelle l'incorporel, quelque chose qui n'est pas une usine. Si vous avez une usine, ce que l'usine va vous rapporter, c'est presque rien. Et d'ailleurs, vous allez la mettre en Chine, ça rapporte pas grand-chose, ça vous coûte pas grand-chose. La vraie valeur, elle est dans votre marque. On a parlé de marque de luxe, mais ça peut être aussi de marque de chaussures, je vais en citer aucune, ce type de choses. Et donc, lorsque votre valeur, elle est dans une marque, et que la marque, elle est très facile à délocaliser, vous allez mettre vos équipes de recherche et développement dans un pays qui taxe peu, et c'est là que vous allez pouvoir localiser tous vos retours, tous vos profits, toute votre rente. Et donc, ce risque-là s'est accru au cours des années 80, des années 90, des années 2000, à tel point que on a vu la concurrence fiscale s'affoler avec les revenus de la propriété intellectuelle s'effondrer. En tout cas, les pays ont dû réduire leur taux d'imposition sur la propriété intellectuelle, la France aussi d'ailleurs. Le Royaume-Uni taxe à moitié taux Donc ils sont à 25%, donc ils taxent à 17% les revenus de propriété intellectuelle parce qu'il y avait une concurrence très forte. Et donc tout ça a provoqué une réaction des États dans le cadre du G20 suite à la crise financière globale de 2008. Et l'OCDE, j'étais en charge de ce dossier quand j'étais à l'OCDE, a mis autour de la table plus d'une centaine de pays pour dire on va changer les règles pour arrêter cette concurrence fiscale et pour limiter l'évasion fiscale. Et donc les règles ont changé. Ce qui était facile hier, c'est-à-dire se prêter au sein même du groupe pour avoir tout votre profit via un produit hybride, avoir des trucs très très compliqués, mais qui font que vous payiez d'impôts nulle part. Ça, c'est plus ou moins fini aujourd'hui. Et puis, il y a un second volet qui est les États se sont mis d'accord, plus de 140 pays, en 2021, pour mettre en place un impôt minimum mondial de 15%, en disant que vous ne pouvez plus faire de la concurrence en dessous de 15%.
On voilà va les revenir, deux Pascal, certainement sur cette ambition de cette fameuse, de ce fameux 15% et cet exploit aussi d'avoir réussi à mettre tous ces pays autour de la table et puis les effets escomptés. Avant cela, il faut tout de même revenir un tout petit peu, Jean-Philippe Robet, sur ce qu'a représenté ce tournant des années 80-90, on le disait, en termes de mondialisation. On le comprend, et notamment avec ce déplacement de ce qui fait la valeur d'une entreprise. Comment, juridiquement, les États tentent de s'adapter, finalement, à cette internationalisation des échanges et donc de la valeur? Est-ce qu'ils se retrouvent à ce moment-là démunis pour tenter de on va dire, imposer un cadre fiscal qui tient la route? Ou est-ce qu'il y avait tout de même une forme de préparation à ce niveau-là?
Non, il y avait une impréparation absolue. Et je crois qu'il faut souligner, et je le dis comme je le pense, l'exploit réalisé par l'OCDE et par notre ami ici présent. Non, vraiment, parce que quand l'OCDE s'est attaqué à ce dossier, du fait d'une volonté politique, et il faut le signaler quand même, c'est parce que le président Obama, ensuite de la crise de 2008, a dit « Attendez, on ne peut pas continuer comme ça ». Qu'avec une volonté politique venant des États-Unis, on a pu avoir une impulsion qui a fait que derrière quelque chose qui semblait impossible, à quasiment tout le monde, a en fait été réalisé. Donc ça veut dire quand même que le politique peut faire quelque chose. Mais le politique, à partir du moment où il a compris que le niveau, c'est le niveau global.
Oui, c'est ça, ce que je veux dire, parce que les juridictions nationales, peut-être, se sont retrouvées une forme d'obsolescence, finalement, face à ce phénomène de la mondialisation.
C'est un phénomène assez général. On parle aujourd'hui d'impôts, mais on pourrait parler aussi de droit du travail, on pourrait parler de droit de l'environnement, on pourrait parler de tous les aspects qui entre dans le cadre de la régulation normale des États, qui aujourd'hui sont mis en concurrence d'une manière générale, avec un système de pouvoir global qui s'est mis en place au cours des dernières décennies, avec une très insuffisante conceptualisation, c'est-à-dire que peu de gens comprennent réellement ce qui se passe, peu de gens ont le vocabulaire pour l'exprimer, et peu de gens sont en mesure d'en parler d'une manière compréhensible. Notamment du fait, et vous parliez des dernières décennies et de ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, notamment du fait de l'idéologie libérale qui l'a emporté à partir de la fin des années 70 et des années 80, qui a eu des conséquences délétères absolument considérables. Si vous voulez, par rapport à la gestion des entreprises, on a cru pendant longtemps, et beaucoup croient encore, que la seule mission d'une entreprise, c'est de maximiser les profits pour les actionnaires. Et aujourd'hui, on vit encore dans le cadre de cette idéologie qui aboutit du fait de ce dont on parle, c'est-à-dire des États qui sont liés à des territoires et des populations et des entreprises qui, elles, sont mobiles et qui, du coup, se trouvent avec, pour seul mandat, maximiser les profits. Et donc, toutes les autres parties prenantes sont mises en concurrence. Et donc, on va aller à l'endroit où les salaires sont les plus faibles, on va aller à l'endroit où la protection de l'environnement est la plus faible, etc. Et, pour ce dont on parle aujourd'hui, où l'impôt est le plus faible.
On le comprend, cette concurrence, elle passe donc par un moins 10 ans, on va dire, en termes de fiscalité. Lutter contre la fuite des revenus fiscaux issus des bénéfices des entreprises devient alors, on le disait, dans le cours des années 2000, il y a une forme de prise de conscience et puis ça devient une réelle priorité.
Ce combat pour la justice fiscale est un combat auquel je crois beaucoup.
Bruno Le Maire, le 3 avril 2019.
Il y a la taxe sur les géants du numérique. Il y a aussi un point clé, c'est un impôt minimum à l'impôt sur les sociétés pour toutes les multinationales qui délocalisent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Cette question d'impôt minimum, j'en fais la priorité du G7 Finance que la France préside cette année. Je ne veux plus avoir des multinationales qui font des bénéfices sur vous, sur nous, sur les consommateurs français, qui rapatrient ces bénéfices dans un paradis fiscal où l'impôt sur société est plus faible et qui du coup paye moins d'impôts. Mais bien sûr que des sociétés françaises le font, mais elles seront soumises à cet impôt minimum, à l'impôt sur les sociétés. Je ne veux plus d'évasion fiscale.
Nous avons aujourd'hui obtenu
Emmanuel Macron le 16 décembre 2022.
Et là aussi, ces dernières minutes, ça fait partie de l'accord groupé que nous avons fait accoucher dans ces dernières heures. L'imposition des entreprises à un niveau minimal de 15% est maintenant actée.
Nous sommes enfin en train de mettre en œuvre en Europe un projet qui me tient à cœur.
Olaf Scholz, le 16 décembre 2022.
L'imposition minimale pour les grandes entreprises. Et dans cet esprit, je suis très confiant sur le fait que nous nous mettrons également d'accord lundi sur des mesures de grande envergure dans le secteur de l'énergie. Je dis tout cela pour que ce soit clair. L'Europe répond de manière unie et puissante aux crises actuelles dans le monde.
Voilà, on le disait, des initiatives sont prises et sous l'égide de l'OCDE et Pascal Saint-Amans, vous avez été un des artisans de cet accord. Environ 140 pays se mettent autour de la table et décident de ce taux minimal d'imposition de 15%. Pascal Saint-Amans, quel était le but premier d'une telle initiative? Est-ce que c'était créer une sorte de filet de sécurité, de minimal, auquel, en tout duquel personne n'aurait le droit de descendre?
Oui, vous l'avez très bien décrit, c'est effectivement mettre en place un filet de sécurité. Alors, on vient de parler de surtaxe à un impôt de 25%. On nous dit, c'est super, il y a un impôt minimum de 15%. Là, personne ne va rien comprendre.
Oui,
en réalité, vous avez le principe que chaque pays souverainement taxe les entreprises qui font du business sur ce pays à un taux dont on a vu qu'ils sont passés de 50% à 25%, mais dans les petits pays, d'entre 10 et 20%.
Tout simplement parce que les petits pays, c'est aussi une façon d'attirer.
C'est une façon d'attirer. Ils n'ont pas de profondeur de marché. Ils n'ont pas un grand marché. Donc, pour attirer les entreprises, bah, il faut qu'ils présentent d'autres avantages comme un taux d'impôt sur les sociétés faibles et des toutes petites juridictions comme les Bermudes ou les Caïmans qui sont à zéro. Et donc, la difficulté et le risque, c'est que la France taxe à 25% ses entreprises, mais il y a un risque que ces entreprises mettent des profits du fait de toutes ces manipulations possibles, mettent ces profits aux Bermudes à 0%, ou aux Bermudes via l'Irlande à 12,5%. Et donc, il y avait un risque, si vous maintenez des poches de profit taxées à 0%, vous gardez la pression pour baisser votre taux d'impôt sur les sociétés de 25% à quelque chose qui va être en dessous. D'où l'idée qui a émergé, à la fois aux États-Unis et en Europe, et là aussi c'est un paradoxe, c'est l'administration Trump en 2017, qui a adopté le premier impôt minimum mondial. Obama en avait rêvé, c'est Trump qui l'a fait. Alors, c'est pas tout à fait le même, mais les États-Unis ont dit, nous passons à la territorialité. Vous savez, on a mentionné la territorialité tout à l'heure. Ils taxaient au mondial, ils se sont dit, maintenant, on va juste taxer ce qui se fait aux États-Unis, mais si votre taux d'imposition, vous, entreprise américaine, votre taux d'imposition à l'étranger, en moyenne, est inférieur à 12%, on prendra la différence. Et alors, quand les Européens ont vu ça, ils sont venus nous voir à l'OCDE, on dit, on veut la même chose, en mieux. Donc, ils ont dit, il ne faut pas que ce soit une moyenne mondiale, il faut que ce soit par pays. Donc, si vous avez une partie de votre profit au Caïman et l'autre partie en France, pour une entreprise américaine, mais vous avez 25 et 0, ben ça faisait 12,5 de moyenne, les États-Unis prenaient rien. Mais alors, les Français ont dit, non, si une boîte a des profits au Caïman à 0, ben il faut prendre la différence. On a fait une négociation qui a duré pendant 4 ans, et à l'issue de cette négociation, 140 pays, dont les États-Unis, se sont mis d'accord pour dire, il faut qu'il y ait au moins 15%, et c'est pas juste un taux, c'est aussi une base. Donc la base, elle fait l'objet d'un accord. Donc c'est 15% effectif. Et ce qui est diabolique dans ce mécanisme, c'est que vous avez trois couches. C'est un rasoir à trois lames, si on veut. Le pays de résidence de l'entreprise, donc si on prend la France, va regarder ce que fait son entreprise française. Et si l'entreprise française a des profits taxés à moins de 15% dans un autre pays, la France prend la différence. Mais si la France ne le faisait pas, France le fait, mais les États-Unis ne le font pas.
Oui.
Ben, le pays qui offre zéro fiscalité aujourd'hui peut prendre les 15%. C'est le cas de Singapour, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas de la Barbade. Aujourd'hui, ils vont prendre les 15% en disant « si je ne les prends pas, quelqu'un d'autre les prendra ». Le pays de résidence, alors les États-Unis ne le font toujours pas, et si les Caïmans ne le font pas, je prends un exemple concret, les Caïmans ne le font pas encore, à ce moment-là, c'est les Européens qui applique la mesure, et c'est la troisième lame du rasoir. Si les États-Unis ne prennent pas les 15% sur un profit réalisé par une entreprise américaine et localisée au Caïman taxée à zéro, eh bien les Européens prendront les 15%. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin que tous les pays appliquent. Il suffit qu'il y ait une masse critique de pays qui appliquent pour que toutes les entreprises du monde y soient soumises. Et c'est là que vous avez une crise avec l'administration Trump qui arrive, parce que l'administration Trump dit « moi je ne vais pas appliquer ce truc de Biden. J'ai ma propre taxe minimum à 12,5% en moyenne mondiale, qui passera à 16% en moyenne mondiale, mais c'est moins que ce que vous faites. Mais je ne veux pas que vous, Français, vous, Allemands, mettiez vos sales pattes sur les profits de mes entreprises. Et si vous le faites, devinez quoi, vous aurez des mesures de rétorsion commerciale. Et c'est le débat que vous allez voir arriver dans les semaines qui viennent.
Et qui font partie effectivement des perspectives politiques et économiques, notamment visées depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Pascal Saint-Amans, au-delà de ces perspectives-là très américaines, on va dire, est-ce qu'il y a encore un chemin à parcourir, on va dire? Et je vous pose la question notamment parce que il y a un rapport de l'Observatoire européen sur la fiscalité qui disait que justement ce taux d'imposition minimum mondial de 15% sur les multinationales, qui avait suscité beaucoup d'espoir en 2021, a été considérablement affaibli, initialement prévu pour augmenter les recettes fiscales des entreprises à l'échelle mondiale de près de 10%. Une liste croissante de failles a divisé par deux les recettes escomptées. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on peut améliorer encore les choses?
Non, je crois que l'Observatoire peut améliorer sa compréhension du mécanisme. Ça va rapporter dans l'ordre entre 150 et 200 milliards d'euros au niveau mondial. Au niveau global, la France, c'est 3 ou 4 milliards d'euros. Le taux de 15% effectif, en réalité, il est très élevé. Il a fallu tordre le bras des Irlandais, de beaucoup d'autres pays, aller plus loin. Pourquoi pas? Mais je pense qu'à 15%, on est sur un taux qui n'est pas négligeable.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux, Jean-Philippe Robet et Pascal Saint-Amans, d'avoir participé à cette émission.